You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Une de ce dimanche 9 septembre 2018, Jennifer Kent a reçu le prix spécial du jury au Festival international du film de Venise pour The Nightingale, fresque violente pendant la colonisation britannique au 19e siècle en Tasmanie. L'Australienne était la seule réalisatrice en compétition. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré que les observateurs internationaux attendaient toujours d'avoir accès à l'état de Rakhine au Myanmar pour déterminer s'il était sans danger pour que les Rohingyas déplacés puissent possiblement y revenir. Et enfin, la déclinaison française de la marche pour le climat. Elle a rassemblé au moins 18 000 personnes à Paris, une mobilisation pour exiger une réelle prise en compte du dérèglement climatique par les politiques. En Australie tout d'abord, une réalisatrice australienne a reçu le prix spécial du jury au Festival de Venise. Jennifer Kent l'a effectivement remporté avec son film, un thriller nommé The Nightingale. Elle a dédié ce prix au peuple aborigène de Tasmanie, dont le traitement brutal par les colonisateurs britanniques a été explicitement interprété dans le film. L'acteur principal, Baikali Ganambar, qui est aborigène, a également remporté le prix du meilleur acteur. Madame Kent, la seule réalisatrice, femme donc, dans le concours principal, espère que plus de femmes seront représentées dans le futur. On l'écoute.
The feminine force is the most powerful and healing force on the planet. So I hope and I'm confident that next year and the year after and the year after we will see more and more women inhabiting this space.
Un groupe de soutien aux enfants victimes d'intimidation appelle le gouvernement australien à créer des normes de sécurité nationale pour les services et plateformes Internet. Le groupe de soutien Reach Out a publié les résultats d'une enquête montrant que près de 40% des enfants déclarent avoir été victimes d'intimidation en ligne. Ce rapport a été fait auprès de 1000 jeunes entre 14 et 25 ans. Et le PDG du groupe, Jono Nicolas, a déclaré que la prévalence et la gravité du problème nécessitaient une action.
There needs to be an easy way in which Australian parents can assure themselves that the places they're spending or their kids are spending time are safe. They need to be able to judge those safety in a really easy way, similar to the way we have with cars. And while we're turning around this issue, we need further support for organisations like Reach Out and Kids Helpline to deal with what is a really significant issue for Australian young people.
Et à l'international, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, a déclaré que les observateurs internationaux attendaient toujours d'avoir accès à l'état de Rakhine au Myanmar pour déterminer s'il était sans danger pour que les Rohingyas déplacés y reviennent. Rappelons que la violence dans cet état a forcé 700 000 civils Rohingyas à fuir au Bangladesh en août dernier. Il y a trois mois, le gouvernement du Myanmar a signé un accord permettant aux agences de l'ONU d'inspecter près de 2 douzaines de villages et le porte-parole Babar Balouche estime que cette évaluation constituera une première étape importante dans la reconstruction de la confiance. On l'écoute.
One is the basic agreement on the assessments that they can go forward. But for our staff to travel to those areas, there's special travel authorizations that is needed. So we're waiting for those. As soon as they come, UNHCR and UNDP staff are ready to go and do the assessments in at least 23 villages and additional places that we have been allowed to go to.
Et le groupe de protection des animaux Human Society International a appelé à bloquer un projet au Japon visant à relancer la chasse commerciale à la baleine. La délégation australienne quitte l'Australie aujourd'hui pour se rendre au Brésil pour la 67e réunion de la Commission baleinière internationale. Anne Ruston, ministre adjointe du développement international et du Pacifique, a déclaré que l'Australie voterait contre ce projet. Alexia Wellbelove de Human Society International a dit qu'il était important que le plan du Japon ne soit pas mis en œuvre.
We have no need for whale meat or any other product. You know, whales are slow-breeding, long-lived animals, and they're extremely vulnerable to over-exploitation. And the recent killing of a potentially hybrid blue fin whale in Iceland demonstrates how hard it is to know what you're killing when you're killing whales. So I think we need to be mindful of that and be aware that whaling is not supported by the vast majority of International Whaling Commission members, and we hope that continues to be the case.
Des manifestants se sont rassemblés à l'extérieur du bâtiment des Nations Unies à Bangkok, en Thaïlande, où des experts organisent des entretiens sur la manière de mettre en œuvre les mesures de l'accord de Paris de 2015 sur le changement climatique. Le groupe de 200 manifestants comprenait des dizaines d'ouvriers et de pêcheurs du golfe de Thaïlande, dont la subsistance est menacée par la montée du niveau de la mer et l'érosion côtière causée par le changement climatique. Les pourparlers se poursuivent depuis mardi. L'un des points critiques étant le financement des pays en développement qui luttent contre le changement climatique. Et on reste dans le sujet de l'écologie avec cette marche pour le climat en France. Elle aura réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes. 18 500 pour la seule manifestation parisienne selon les chiffres de la police. Un mouvement né sur les réseaux sociaux, relayé par les associations écologistes. Ce mouvement est planétaire puisqu'il s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale d'action pour le climat. Un mouvement qui prend toutefois une dimension toute particulière en France après la récente démission de Nicolas Hulot du ministère de la Transition écologique. L'objectif affiché de cette journée, c'était de montrer une autre manière de vivre compatible avec la protection du climat. Certains ont même apporté la preuve sur la place de l'hôtel de ville, point de rassemblement des manifestants parisiens. Reportage Christine Zierbert pour RFI.
Loïc Regard danse au rythme diffusé par la petite sono qu'il a apporté sur la place de l'hôtel de ville. Il explique.
C'est le Solar Sound System. C'est totalement alimenté par l'énergie solaire. C'est un projet associatif international. Et avec l'argent de l'événementiel, on finance des projets de recherche sur la transition énergétique de manière indépendante.
Dans la même veine, ce grand ballon noir qui flotte dans le ciel, c'est Ewen Chardronnet de la fondation Aérosène qui le dirige grâce à quelques fils.
Alors c'est un ballon aérosolaire, c'est-à-dire qu'il est fait de toile noire qui chauffe l'air qui est à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de brûleur de carbone, on n'utilise pas d'hélium. Le soleil vient chauffer la toile noire et chauffe l'air à l'intérieur. La différence de température, au bout d'un moment, fait monter le ballon. C'est peut-être le futur des transports, hein, qu'il y a possibilité de faire des transports aériens sans carbone, zéro carbone.
Les transports sans carbone et les énergies non fossiles pourraient être omniprésents, mais pour cela, il faut des décisions politiques et c'est ce que demandent les manifestants rassemblés à Paris, que le gouvernement change complètement sa ligne pour que l'écologie et le climat priment sur toutes les décisions.
Voilà, reportage de Christine Zibert pour RFI à Paris. Et à noter que cette marche pour le climat trouvait également un écho dans la presse à travers la tribune de 700 scientifiques français publiée dans le quotidien Libération. Un texte pour appeler les dirigeants, je cite, à passer aux actes pour enfin se diriger vers une société sans carbone. L'astrophysicien Aurélien Barreau est l'un des signataires de cette tribune. Propos recueillis sur RFI.
Les discours maintenant suffisent. Il est absolument impératif de prendre la mesure de l'urgence extrême et il est indispensable que l'action politique en prenne la mesure. Il y a le problème, en effet, du changement climatique qui est immense. Il y a le problème de la pollution qui est immense. Il y a le problème de la réduction des espaces de vie pour les animaux qui est immense. Il y a le problème de la consommation exponentielle des ressources planétaires qui est immense. Donc c'est tout un système de production et de vie qui est à repenser. C'est maintenant ou jamais. La responsabilité des politiques est immense. Soit, sachant ce qu'ils savent, ils seront les pires des lâches, soit au contraire, ils seront les premiers héros. La balle est dans leur camp.
Voilà l'astrophysicien Aurélien Barreau, signataire, aux côtés de 699 autres scientifiques français de la tribune vers une société sans carbone. Et l'actualité en France, c'est aussi le conflit autour de la coquille Saint-Jacques. On croyait la hache de guerre enterrée entre pêcheurs français et britanniques avec un accord de principe entre les deux parties. Mais les relations se sont à nouveau refroidies hier soir après l'échec des négociations menées à Paris, aucun des acteurs n'étant parvenu à un consensus sur les modalités de pêche du précieux mollusque. Franck Alexandre pour RFI.
Le blocage est total, mais les discussions ne sont pas rompues. Le constat est qu'il n'y a pas d'accord, car les prétentions des Britanniques sont disproportionnées. Se désole pourtant Hubert Carré, directeur du Comité national français des pêches. À l'origine de ce différend franco-britannique, il y a le temps de pêche pour préserver la ressource. Les pêcheurs normands n'ont le droit de pêcher la coquille que du 1er au 15 mai. Leurs homologues britanniques, eux, n'ont pas les mêmes contraintes. Ils peuvent pêcher toute l'année s'ils utilisent des bateaux de moins de 15 mètres. Une concurrence déloyale, juge-t-on du côté français, d'autant plus que le produit de la pêche britannique est surtout destiné au marché hexagonal. En échange de la promesse de respecter le calendrier français, les Britanniques exigent donc des compensations. Le problème, souligne Hubert Carré, est qu'ils ont mis la barre tellement haut qu'il n'est pas possible de discuter. Ils demandent en effet de pouvoir pêcher dans les eaux normandes des quantités très importantes de maquereau, une espèce qui se fait rare. Après les récentes altercations en mer, l'apaisement est donc loin d'être acquis, et ce d'autant plus que des deux côtés de la Manche, les tensions semblent se raviver à l'approche du Brexit.
C'est une révélation qui n'est pas du goût des salariés d'Air France KLM. Leur nouveau patron, Benjamin Smith, pourrait recevoir jusqu'à 4,5 millions d'euros en cas de départ contraint. C'est la compagnie aérienne qui dévoile ce montant, démontant ainsi une information qui évaluait le parachute du directeur général à 8,5 millions d'euros. Francine Quentin pour RFI.
Benjamin Smith doit prendre ses fonctions à la direction d'Air France KLM d'ici le 30 septembre, mais il sait déjà combien il percevra en cas de départ pour non-renouvellement de son mandat, révocation ou démission forcée. Le parachute doré, dont le montant sera soumis à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale d'Air France KLM, pourrait aller, selon un calcul compliqué intégrant des parts fixes et variables, jusqu'à 4,5 millions d'euros sur décision du Conseil d'administration. Un chiffre que ne manqueront pas de relever les salariés d'Air France en conflit depuis des mois avec la direction pour obtenir des augmentations de salaire. Déjà, lorsqu'elle a été connue au mois d'août, la rémunération de Benjamin Smith, débauché de son poste de numéro 2 d'Air Canada, avait fait des remous. À 4 250 000 euros par an, ce salaire atteint plus du triple de celui de son prédécesseur Jean-Marc Janeillac. Celui-ci avait démissionné en mai dernier après le rejet de l'accord salarial proposé au personnel et pour lequel il avait mis sa tête dans la balance.
Et en sport rapidement, tennis, Naomi Osaka, âgée de 20 ans, a battu Serena Williams en 2-7 et a donc remporté le titre de l'US Open féminin 6-2, 6-4. Une première pour cette japonaise qui n'a fait que monter durant le Grand Chelem. Pourtant, un match qui n'a pas été de tout repos, Serena Williams a complètement perdu son calme face à l'arbitre. On écoute un extrait de Naomi Osaka juste après le match.
Well, it was always my dream to play Serena in the US Open Finals, so I'm really glad that I was able to do that, and I know that everyone was cheering for her, and I'm sorry it had to end like this.
Et maintenant, un rapide coup d'œil sur la météo d'aujourd'hui. Et c'est plutôt ensoleillé sur une grande partie du pays. À Perth, du soleil est 23 degrés donc. C'est la même chose avec 19 degrés à Adélaïde. Nuageux et 18 degrés à Melbourne. Un peu de pluie attendue, 16 degrés à Hobart en Tasmanie. Ensoleillé, 17 degrés à Canberra. Du soleil également, 19 degrés à Wollongong. Les mêmes conditions à Sydney avec 21 degrés, du soleil et 21 degrés également à Newcastle, du soleil pareil avec 27 degrés à Brisbane, c'est nuageux avec 30 degrés à Cairns et enfin un temps d'été et du soleil à Darwin avec 35 degrés. Et en bourse, aujourd'hui avec un dollar australien, vous achetez 0,69 US dollars, 0,59 euros et enfin 0,53 livres sterling. On revient sur les grands titres de ce dimanche 9 septembre 2018. Jennifer Kent a reçu le prix spécial du jury au Festival international du film de Venise pour The Nightingale, fresque violente pendant la colonisation britannique au 19e siècle. En Tasmanie, l'Australienne était la seule réalisatrice en compétition. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré que les observateurs internationaux attendaient toujours d'avoir accès à l'état de Rakhine au Myanmar pour déterminer s'il était sans danger pour que les Rohingyas déplacés puissent possiblement y revenir. Et enfin, la déclinaison française de la marche pour le climat. Elle a rassemblé au moins 18 000 personnes à Paris. Une mobilisation pour exiger une réelle prise de conscience du dérèglement climatique par les politiques.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.